Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, pour une émission au sommaire un peu inhabituelle puisqu'il n'y aura pas de retour arrière aujourd'hui. La semaine passée a en effet été très calme, comme nous l'avions annoncé lors de notre numéro précédent. Fort heureusement, les affaires reprennent pour la dernière semaine d'avril, ce qui nous offre un solide agenda à vous présenter, avec bien sûr mon fidèle complice Serge Ozy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous avons deux invités pour cette émission. Jean Percy, qui dirige la Schola Cantorum pour le concert Tour d'Europe de la musique baroque à la Basilique Saint-Sernin, samedi 26 avril à 20h30. Notre second invité est le percussionniste et pianiste Jean-Sébastien Borsarello, timbalier solo de l'Orchestre National du Capitole et membre des Clés de Saint-Pierre, dont le dernier concert de la saison a lieu lundi 28 avril à 19h30 à la Chapelle des Carmélites à Toulouse. Il est intitulé « Souvenirs d'Europe centrale ». Voilà pour le sommaire de ce numéro. Tout de suite, l'agenda de Mélomanie.
Mélomanie. L'agenda.
Agenda que nous allons commencer avec Serge pour évoquer le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, vendredi 25 avril à 20h à la Halle aux Grains. C'est un chef très prestigieux qui va le diriger, le néerlandais Ton Koopman. Rien que pour ça, Serge, il ne faut pas rater cette soirée, même si elle a bien d'autres attraits tout de même.
Bien sûr, y compris le programme. Alors Ton Koopman, il faut se souvenir, c'est à la fois un chef d'orchestre, un organiste, un claveciniste. Et en même temps que lui, eh ben, nous entendrons de nouveau la Maîtrise de Toulouse, qui a été créée et animée par Marc Hopstadt, un chœur magnifique, hein, dont il faut chaque fois redire la qualité et l'implication dans les programmes. Alors, Ton Koopman est tout de même un élève de Gustav Leonhardt, hein, et il s'est fait connaître dans l'interprétation sur instruments d'époque, essentiellement, des musiques anciennes, qualifiées d'anciennes, mais en 1969, il a quand même créé son premier ensemble baroque, Musica Antica Amsterdam, et en 1979, l'Amsterdam Baroque Orchestra, auquel s'est joint en 1993 le chœur baroque d'Amsterdam. Donc c'est vraiment un musicien particulièrement actif. Et sachez qu'il a réalisé et enregistré une intégrale des cantates religieuses de Bach, ce qui est tout de même une somme incroyable. Et en plus, ce sont des enregistrements qui ont été réalisés dans les conditions supposées de l'époque, avec le diapason baroque même, 415 au lieu du 440 actuel. Bon, alors, lors de son concert toulousain, Ton Koopman va d'abord diriger une symphonie de Mozart, la symphonie numéro 36, dite Linz, dont les circonstances de la composition ont été incroyables, puisqu'il l'a composée en une journée, parce qu'on lui demandait, lorsqu'il rentrait à Vienne après un séjour à Salzbourg, il avait fait une étape à Linz, et on lui propose de jouer sa musique, et il n'avait pas de partition à lui, dans ses bagages, donc il a composé cette symphonie en une journée, voilà, modeste.
Non, c'est Mozart.
Oui, oui, c'est très Mozart. Et ensuite, alors le gros morceau, disons, de la soirée, ce sera le fameux Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, qu'en français on appelle Pergolesi.
Jean-Baptiste Pergolesi.
Voilà, donc le Stabat Mater qui est vraiment une œuvre fantastique, une œuvre magnifique. La dernière œuvre du compositeur, qui est tout de même mort en 1736 à l'âge de 26 ans. Hein.
Et oui.
Donc c'est encore un autre de ces compositeurs morts très jeunes. Alors ce Stabat Mater, il est écrit pour deux voix chantées, traditionnellement une soprano et une alto, mais à l'époque c'était très certainement des castrats qui chantaient ça, puisque les voix féminines étaient interdites à l'église. Donc voilà, avec un ensemble instrumental de composition classique, hein, une composition basée sur un texte liturgique quand même du XIIIe siècle. Cette œuvre sera donnée ce 25 avril avec le concours de la soprano belge Ilse Ehrens et de la mezzo-soprano britannique Sophie Gallagher. Et donc, comme je le disais, avec la Maîtrise de Toulouse, la Maîtrise du Conservatoire, donc dirigée par Marc Hopstadt. Alors, rappelons quand même que cette maîtrise, elle a été créée en 2006, hein, au sein du Conservatoire.
Oui, il y a près de 20 ans qu'elle existe.
Hein. Mais oui, et donc sa qualité a été immédiatement reconnue, puisque En 2017, quelques années après, ce chœur a reçu le prestigieux 27e prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, une édition spéciale maîtrise et chœur d'enfant. Donc, toutes les qualités sont réunies pour que nous ayons un très beau concert.
Oui, c'est pas commun pour l'Orchestre National du Capitole de donner le Stabat Mater de Pergolèse, ou de la musique baroque en général, mais Stabat Mater. Je ne sais pas, Jean-Sébastien Borsarello, vous l'avez déjà... Jouez-vous ?
Alors moi personnellement non, parce qu'il n'y a pas de timbales dans le Stabat Mater de Pergolèse. Mais depuis que je suis arrivé à l'orchestre, j'ai pas l'impression que
moi
ça
non
a
plus
été joué.
Moi non plus, j'ai aucun souvenir. Ouais.
On joue assez rarement des œuvres liturgiques, je trouve, à l'orchestre.
Non, c'est vrai.
Ça pourrait être.
C'est l'occasion avec évidemment Ton Koopman. Ça serait dommage de pas le faire avec lui.
Nous avions joué Requiem de Mozart la dernière fois.
Oui.
Il a 80 ans, Ton Koopman.
Mais oui, mais toujours très vigoureux, très vif. Très animé.
Non, mais ça va être un magnifique concert. Je crois que c'est déjà plein hein, pour ceux qui nous écoutent. Ça ne l'est pas, il faut vraiment se précipiter. Hein, Jean-Sébastien,
je regarde régulièrement les billetteries de nos spectacles. Effectivement, le concert est plein. Et je peux ajouter d'ailleurs à ce que disait Serge que j'ai regardé un petit peu les effectifs et cette version du Stabat Mater sera jouée avec vraiment l'effectif minimum. Une quinzaine de cordes maximum. Hein. C'est vraiment l'effectif baroque par excellence.
Très dépouillé.
On ne sait pas avec quel diapason, mais
vous irez poser la question à Tom Koopman après le concert. Je suis sûr qu'il sera un plaisir de répondre à votre question. Voici le célèbre début du Stabat Mater de Pergolèse, Stabat Mater Dolorosa, dans une version qui va nous permettre d'entendre la voix de la soprano belge Ilse Herentz. Thank you. Stabat Mater Dolorosa, le début du Stabat Mater de Pergolèse avec la voix d'Ilse Ehrens. Vous pouvez retrouver la soprano belge aux côtés de la mezzo-soprano Sophie Gallagher et de Ton Koopman qui dirige donc l'Orchestre National du Capitole dans ce même Stabat Mater, vendredi 25 avril à 20h à la Halle aux Grains. La symphonie Linz de Mozart est également au programme de cette soirée exceptionnelle. Et puis le lendemain, samedi 26 avril à 20h30 à la Basilique Saint-Cernin, le chœur et l'orchestre de la Schola Cantorum sont en concert au sein de leur port d'attache, parce que je devrais dire la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin. Et pour nous présenter ce concert et son programme Tour d'Europe de la musique baroque, nous allons avoir au téléphone, il n'est pas avec nous, il n'a pas pu être là, dommage, mais on est bien content de l'avoir quand même au téléphone, Jean Percy, le directeur artistique de la Schola Cantorum. Je précise, Jean, que vous êtes deux, en fait, pour diriger ce concert. Il y a aussi Étienne Berny. Vous pouvez peut-être nous présenter ce jeune chef, d'ailleurs.
Absolument, merci de cette invitation et désolé de ne pas pouvoir être là. Oui, on va co-diriger ensemble ce concert, Étienne et moi-même. Alors Étienne, c'est un compositeur formé ici, il compose un petit peu, également chef, également claveciniste et organiste. Il a fait ses études ici au Conservatoire de Toulouse et il a décidé de rendre un petit peu de ce qu'on lui a appris. Il est aujourd'hui en pôle supérieur, en classe d'orgue, et donc c'est avec lui que j'ai décidé de fonder cet orchestre de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin, un orchestre baroque, pour rester dans le thème de ce que nous venons d'entendre. Et effectivement, donc c'est avec lui qu'on a essayé de mettre en place ce beau projet autour du Tour d'Europe de la musique baroque.
Voilà, Étienne Berny, pensionnaire de l'ISDAT, le pôle supérieur à Toulouse. Ça va être une première, je crois, pour lui, à la direction de l'orchestre de la Schola Cantorum.
Oui, je lui souhaite du courage et surtout du plaisir, parce que c'est vrai que diriger à Saint-Sernin, c'est toujours un petit peu responsabilisant, mais c'est quelque chose de très très beau. Ça s'y prête parfaitement et je pense que le répertoire a aussi été choisi non seulement pour l'effectif, mais en plus pour coller parfaitement avec ce type d'édifice et avec la réverbération notamment, les choses comme ça. Je pense qu'il prendra beaucoup de plaisir à faire ça. C'est effectivement une première pour lui, mais bon, c'est quelqu'un de rodé qui connaît ce genre l'acoustique aussi en tant qu'organiste, et donc je pense qu'il va se débrouiller à merveille.
Donc lui, il va diriger du clavecin. Alors la Schola Cantorum, il y a quatre chœurs à la base, mais donc depuis peu, il y a aussi un orchestre. La première, c'était pour vos concerts de Noël en décembre dernier. Là, ça va être le deuxième concert pour l'orchestre, c'est ça,
Absolument. Et là, l'objectif de ce concert, c'était véritablement de mettre l'orchestre au centre du jeu. Donc, il y aura un petit bout de chœur qui vont chanter un extrait du concert. Mais l'objectif, c'était vraiment de mettre en avant cet orchestre qui est un orchestre liturgique, qui est donc est capable de faire de la musique sacrée, bien entendu, mais aussi de la musique liturgique pendant les offices. C'est ce que nous avons fait notamment lors de la messe qui a eu cadre dans le Festival Toulouse les Orgues. C'était pour nous assez important de mettre en avant ce type de savoir-faire qui s'est perdu et qu'on essaie de mettre en avant, parce qu'il y a là aussi du très très beau répertoire.
C'est combien de musiciens aujourd'hui l'orchestre de la Schola Cantorum ?
Alors en fait, ça varie. On a des petits effectifs et des plus grands effectifs. Là, vous aurez entre 6 et 8 musiciens, mais c'est une composition baroque assez classique, j'ai envie de dire, d'église telle que ça pouvait se pratiquer au 17e, 18e siècle. Et donc finalement, c'est quelque chose qui était assez courant dans cette façon de faire. Donc on n'est pas avec un orchestre pléthorique comme on peut avoir dans les philharmonies. C'est quelque chose de beaucoup plus intime, avec là aussi des instruments qui sont spécifiques à cette période-là, mais un son donc tout à fait particulier. C'est pour ça que je vous invite à aller découvrir cette formation.
Les chœurs, lesquels vont se produire, parce qu'il y en a donc quatre, mais lesquels vont être présents lors de ce concert du 26 avril ?
Alors là, j'ai décidé de faire une petite sélection de certains choristes du Grand Chœur, qui est un chœur mixte, afin de constituer un chœur de chambre pour rester dans cette dimension assez intimiste, parce qu'on ne va pas être sur des œuvres monumentales. Donc là, j'ai sélectionné simplement une dizaine de choristes qui vont pouvoir interpréter une cantate de Buxtehude avec l'orchestre, donc.
Dans ce tour d'Europe de la musique baroque dont nous allons détailler vraiment toutes les pièces et les compositeurs, il y a une figure inévitable, c'est Jean-Sébastien Bach, bien sûr. Sa suite numéro 2 en si mineur est au programme de votre concert du 26 avril. Et dans cette suite, on trouve notamment ce court morceau. Thank you. la fameuse badinerie de la suite numéro 2 en si mineur de Jean-Sébastien Bach, une des œuvres jouées lors de votre tour d'Europe de la musique baroque le 26 avril à la basilique Saint-Sernin. Quelles autres pièces avez-vous également retenues? On va commencer par l'Europe latine, l'Espagne et l'Italie.
Alors, en fait, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'était certains thèmes qui vont être un petit peu récurrents, notamment le thème de la folie. Alors, c'est un thème comme ça qui, je pourrais pas vous le siffloter, mais c'est un thème qui est bien connu, qui a traversé, en fait, non seulement les pays, mais également les siècles, et qu'on retrouve un petit peu partout. Et donc, on a voulu se concentrer sur certains compositeurs. Alors, sur l'Europe latine, on s'est concentré sur deux compositeurs. Le premier, c'est Ortiz. Le second, c'est Castello. Ce sont des compositeurs qu'on n'a peut-être pas l'habitude de trop entendre. Ortiz, c'est quelqu'un, effectivement, qui est assez peu connu. Pourtant, il a été à la cour du duc d'Albe, un grand compositeur qui a donc terminé sa carrière à Naples. Et de l'autre côté, donc Castello, qui, lui, a une carrière extrêmement respectable, un vénitien, comme tout grand violoniste de l'époque qui se respecte. Et il était musicien à la basilique Saint-Marc, quand le maître de chapelle n'était autre que Claudio Monteverdi. Donc voilà, on voit une belle filiation là-dessus. Et ce sont des compositeurs donc, qui ont ce génie de la musique légère, qui est si propre à la musique baroque. Alors, toute la musique baroque n'est pas forcément légère, mais il y a, comme disait Philippe Bosson, ce mouvement de la séduction. Et la séduction, c'est l'aspect un petit peu dansant que nous avons dans le baroque. Il y a un rapport intime entre la danse et la musique baroque, mais on s'est dit que le thème de la folie faisait partie des thèmes qui étaient le plus à même de servir ce type de répertoire-là. Non seulement parce que, pour les gens, ils reconnaîtront les clins d'œil de ce thème, et nous, ça nous permet de faire découvrir d'autres compositeurs.
Alors, juste pour s'arrêter là sur les deux dont vous venez de nous parler, Diego Ortiz, comme son nom l'indique, est espagnol, il est né à Tolède, mais c'est à Rome qu'il va publier son Tratado de Glosas, et ce sont les glosas que vous allez interpréter justement.
Voilà, tout à fait. Le but du jeu, c'est comme une forme de discours, en fait, qui est fait sur la musique. C'est comme si c'était une déclinaison du talent du compositeur qui, là, sur des thèmes donnés, eh ben, va pouvoir décliner tout son talent. C'est l'objectif que nous avons, c'est de faire tous ces clins d'œil musicaux avec la musique qui se décline en différentes gloses, justement.
Et Dario Castello, alors lui, vénitien, effectivement, il fait partie de ces musiciens qui ont une vie plutôt courte, hein, puisqu'il est né en 1602 et mort en 1631, il n'avait même pas 30 ans. Et vous allez interpréter, alors je crois que c'est une de ses œuvres les plus fameuses, la Sonate Concertate in Stile Moderno, en style moderne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette œuvre?
Alors, ce qu'elle a de particulier, c'est son style moderne. Alors, aujourd'hui, ça peut prêter justement à sourire, ben oui, mais il faut savoir que, en fait, c'était une guerre des écoles, enfin, pas une vraie guerre, en vérité. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait deux styles qui s'affrontaient, toujours à fleur et moucheté, bien sûr, mais le style antico et le style moderno. Et en fait, cette façon de voir les choses, c'était très historique et bien entendu, vu du point de vue de l'Église. En fait, l'Église considérait qu'il y avait un patrimoine immuable, qui était le chant grégorien, et il y avait ensuite une façon de rendre hommage à ce chant grégorien avec un grand patron, si j'ose dire, qui était Palestrina, qui arrivait à magnifier d'une certaine mesure le style un petit peu grégorien. Et en fait, c'est ça qu'on appelait le style antico. Et donc, c'est opposé à cette façon de composer, le style moderno, qui là est en fait dans son jus, c'est-à-dire on est pleinement dans la musique baroque, qui là a une joie qui est beaucoup moins contenue, on va dire, que chez Palestrina, et qui donne effectivement cette opposition des rapports entre le style moderne et le style antique, et qui est extrêmement intéressant pour l'époque, bien entendu, de voir un petit peu ces chapelles s'affronter, si j'ose dire.
Eh bien, nous allons écouter un extrait du livre premier de la Sonate Concertare in Stile Moderno de Dario Castello. C'est la seconde sonate. Thank you. Seconde sonate du livre premier de la Sonate Concertare de Dario Castello. C'est bien Castello et non pas Castello. Il est italien et pas espagnol. Donc c'était une version enregistrée par la flûtiste Lucie Horch et le luthiste Thomas Dunford. Autre compositeur au programme de votre tour d'Europe, le français Marin Marais. On parlait des folies tout à l'heure, là on est en plein dedans, Jean Percy.
Absolument, bah là, c'est là, effectivement le fait de ces folies d'Espagne qui se sont échappées et qui ont eu, alors Jean-Sébastien Bach s'est fait plaisir aussi, et Marin Marais également. Marin Marais, c'est un très très grand musicien, alors on le connaît aujourd'hui parce que des livres et des films sont sortis sur cette personnalité extraordinaire, et c'est quelqu'un qui a fait une carrière absolument fabuleuse, qui a commencé comme jeune choriste, qui a rencontré de grandes personnalités et qui est devenu, après avoir mué, quelqu'un qui maniait l'instrument très à la mode de l'époque, la viole de gambe. Et en fait, c'est un compositeur qui avait une immense virtuosité, qui a beaucoup composé là-dessus. Et bien entendu, un thème comme les folies, c'est quelque chose qui a été beaucoup repris donc par la voix autour de certaines cantates, et bien entendu aussi avec la viole de gambe. Et donc, ça nous semblait tout naturel de rendre hommage à ce compositeur si particulier, qui est un petit peu tombé en désuétude. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un véritable talent. Il faut dire que à l'époque, toute la musique était hyper centralisée autour de la figure du surintendant de la musique, Lully, et puis ses successeurs. Mais il y avait vraiment du génie en France, et ça nous semblait vraiment important de remettre au goût du jour voilà, certaines de ses compositions, même si là, effectivement, on est dans les tubes de la musique baroque française de l'époque, si j'ose dire.
Oui, parce qu'il y aura les couplets de folie et la troisième suite pour le coucher du roi, qu'on connaît peut-être un peu moins, qu'on est moins habitué à entendre en concert, en tout cas.
Absolument. L'objectif, c'était de montrer aussi que la musique à l'époque, donc parce qu'on parle beaucoup d'église, mais il y a aussi toute cette dimension du pouvoir royal, d'ailleurs qui était souvent, très souvent imbriquée. Il ne faut pas oublier que le roi Louis XIV a beaucoup utilisé la musique afin de contrer le pouvoir papal. C'est allé jusqu'à la prononciation du latin, d'ailleurs, où il y avait une véritable volonté de la part du pouvoir royal d'utiliser la musique comme instrument de sa puissance. Alors, ça se faisait effectivement avec les imbrications et l'église, hein, ça aller jusqu'à la chapelle royale où il y avait les grands et les petits motets qui étaient utilisés à des fins tout à fait de mise en scène, tout comme le roi mettait en scène toute sa vie. Et c'était un petit peu la même chose. Et donc là aussi, ça nous semblait important de montrer le savoir-faire de ce compositeur dans des zones où on l'attendait un petit peu moins.
Voilà, couplet de folie et troisième suite pour le coucher du roi de Marin Marais. Et nous allons écouter un petit extrait de la troisième suite pour le coucher du roi. C'est un rigodon. Le rigodon de la troisième suite pour le coucher du roi de Marin Marais. Il y a donc aussi Bach dans votre tour d'Europe. Et puis, il y a un petit détour par l'Angleterre, je crois, également.
Oui, on a essayé de faire tout ce tour d'Europe et bien entendu, on ne pouvait pas laisser l'Angleterre toute seule. C'est pour ça qu'on a décidé effectivement de faire... Ça reste de l'Europe de l'Ouest, mais l'objectif, c'était vraiment de montrer ce qui se faisait à cette époque-là. On a à peu près un siècle de musique qui sera détaillé dans ce concert, mais effectivement avec les grandes puissances musicales de ce moment.
Et puis, œuvre, je crois que vous avez un petit peu rajouté, qui n'était pas prévu forcément au programme, le Nim von Hunds de Buxtehude, que vous allez donner avec le chœur de chambre de la Schola Cantorum.
Et alors ça aussi, c'est une petite friandise que l'on veut offrir aux gens. Alors une fois qu'on s'est tous mis d'accord sur un principe de base qui est que le plus grand compositeur de tous les temps s'appelle Jean-Sébastien Bach, on peut parler de celui qui a peut-être été un tout petit peu plus grand quand même, à sa manière, Dietrich Buxtehude, qui a été, le pense-t-on, son maître. En tout cas, il est clair et définitif qu'il a influencé le jeune Jean-Sébastien Bach, ça c'est une certitude dans son écriture. C'était un immense maître, et dans sa musique, en fait, il y a une forme de simplicité, de la perfection que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, je vous dis ça avec mes goûts tout à fait personnels. Et je trouve que dans cette cantate Nim von Uns, qui est une petite cantate, hein, elle dure entre 10 et 15 minutes, et il y a cette espèce de perfection que l'on retrouve chez ce compositeur de la simplicité. Et bien entendu, comme d'habitude dans les compositions de cette époque-là, il y a un thème qui est caché tout au long de cette cantate, c'est le Vater Unser, donc le Notre Père, qui apparaît en fait en filigrane, soit en augmentation, soit de manière un petit peu détournée, tout au long de l'œuvre. Et en fait, là aussi, ça donne à chaque fois différentes entrées, différents points d'écoute pour cette même œuvre, qui là aussi est un petit bijou qui se termine avec une grande jubilation, un amen très virtuose qui là aussi apporte beaucoup de joie.
Et qui prendra toute son ampleur au sein de la basilique Saint-Sernin. Pour le plaisir, voici un extrait du très beau chœur Nim von Uns de Dietrich Buxtehude dans une version de l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon. Chœur Nim von Uns de Dietrich Buxtehude dans une version de l'ensemble Pygmalion dirigé par son fondateur Raphaël Pichon. C'est la pièce qui devrait conclure le concert du chœur et de l'orchestre de la Schola Cantorum samedi 26 avril à 20h30 à la basilique Saint-Sernin. Il sera dirigé par Jean Percy et Étienne Berny. Et de la basilique Saint-Sernin, il n'y a que quelques centaines de mètres à parcourir pour se rendre à la chapelle des Carmélites, où les Clés de Saint-Pierre donnent leur dernier concert de la saison, non pas le 26 avril, mais le lundi 28 avril à 19h30. horaire un peu inhabituel pour les concerts des clés, un concert auquel participe Jean-Sébastien Borsarello, ici présent, pour un programme de trio avec piano intitulé « Souvenirs d'Europe centrale ». Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai rappelé que vous étiez le timbalier solo de l'Orchestre National du Capitole, mais vous êtes aussi pianiste. Le piano, c'est votre premier instrument, en fait.
Oui, tout à fait. Et oui, c'est un instrument que j'ai jamais délaissé. J'ai fait des classes d'accompagnement. Et c'est ça qui m'a sans doute ouvert le champ des possibles, notamment pour la musique de chambre, que je prends beaucoup de plaisir à pratiquer avec mes collègues.
Oui, parce que c'est pas la première fois, Serge, je peux en témoigner, qu'on voit Jean-Sébastien
absolument,
au piano.
Oui, oui, absolument. Il y a eu déjà de très beaux concerts, oui, à Saint-Pierre-de-Cuisine, d'ailleurs.
Qui sont vos camarades de jeu pour ce programme de trio avec piano?
Alors, j'ai le plaisir de partager la scène avec Laura Jaillet au violon et Aurore Dassès au violoncelle, qui sont de très chers collègues et amis. Et nous n'avons jamais joué en trio ensemble, mais je joue régulièrement avec Laura.
Laura, on l'a beaucoup vue au Clé de Saint-Pierre. Oui. Aurore, une ou deux fois aussi, mais Laura Jaillet est particulièrement active.
Hein. Ah oui, oui. Laura aime beaucoup la musique de chambre et elle ne perd pas une occasion de présenter des projets. Elle jouera même, je crois, aussi deux fois la saison prochaine.
Oui, il me semble qu'elle est annoncée.
Mais ne dévoilons pas trop tôt, il y aura des temps pour ça. Oui.
Les œuvres au programme, trio avec piano, trois musiciens et trois pièces.
Oui, nous commencerons par le Sonatensatz D28 de Franz Schubert. Alors c'est une petite pièce, c'est un petit trio en un seul mouvement, comme l'indique son nom, mouvement de sonate, Sonatensatz, composé par un Schubert de 15 ans, en 1812.
Oui.
Et il lui est arrivé une aventure malheureusement qui arrive au garçon, c'est-à-dire qu'il a mué. Donc il a perdu sa place au chœur impérial de Vienne. Il perd sa voix de soprano. Et pour se consoler peut-être, il écrit un petit trio. Un petit trio qui est très influencé par le modèle classique. Il prenait des cours avec Antonio Salieri à l'époque. Voilà, donc un petit trio très frais. On n'a pas encore le Schubert de la maturité à 15 ans.
Oui.
Voilà,
ouais.
On a un Schubert qui manque un peu d'expérience.
Le pauvre, il n'a pas eu vraiment le temps d'arriver à la maturité puisqu'il est mort à 31 ans. Mais...
Qu'il était au mieux de sa vie, on pourrait dire, mais il ne le savait pas.
Ouais.
Mais voilà, il y a quand même de très jolis passages. Je crois que vous vouliez en faire écouter un extrait.
Ah oui, bien sûr, on va écouter un extrait de ce Sonatensatz D28 de Schubert. C'est une version du Beaux-Arts Trio. Sonatensatz D28, le trio avec piano de Franz Schubert dans une version enregistrée par le Beaux-Arts Trio. C'est la première pièce au programme de votre concert Souvenirs d'Europe centrale du 28 avril. La deuxième, c'est une œuvre de Joseph Haydn, le fameux Gypsy Trio.
Oui, Eric, le trio numéro 39, parce qu'il a quand même une numérotation, le trio numéro 39 qui est en sol majeur, et pour donner les références complètes, le Hoboken 15-25. Alors, on l'appelle Gypsy. Pourquoi on l'appelle Gypsy,
oui,
ce trio?
Oui, c'est la question que vous allez vous poser.
Ah oui, forcément, mais j'anticipe toujours vos questions, cher Eric.
Si vous piquez mes questions, qu'est-ce que je deviens, moi?
Donc, ce trio de Gypsy ou trio de Tsigane, en fait, c'est à cause de son troisième mouvement. Mais bon, parlons un tout petit peu quand même de ce trio écrit en 1795 à destination de Rebecca Schroeter. Et vous savez qui était Rebecca Schroeter, cher Eric?
Et non, mais vous allez me l'apprendre.
Ah, alors c'était la compagne en fait de Joseph Haydn durant l'un de ses séjours londoniens. C'était une veuve qui a été la compagne de Haydn quelques moments. Et Haydn lui a dédié trois trios, dont ce trio Gypsy. Alors Gypsy, c'est pas Haydn qui l'a.
C'est pas lui qui a donné ce nom. Comme souvent, surnommé comme ça. Souvent des musicologues qui bien longtemps après donnent un nom à une pièce qui n'était pas celui que le compositeur avait choisi.
Donc Haydn lui a dédié trois trios, dont ce trio numéro 39. Il est construit assez de manière inhabituelle. Hein. Le premier mouvement, c'est un peu comme un thème et variation. Alors, il y a des variations en majeur, des variations en mineur. C'est pas un vrai thème et variation, mais il y a quand même, voilà, on sent qu'il a voulu s'amuser autour de son thème principal. Le deuxième mouvement, lui, n'a rien à voir. C'est une atmosphère très, très douce, très chantée. Et ce fameux troisième mouvement, donc rempli de mélodies gitanes, avec des pizzes à la main gauche au violon, avec des traditions aussi d'interprétation chez les artistes, où on fait des ralentis, des accélérés, un peu, qui rappellent presque un peu les danses hongroises de Brahms.
Donc le troisième mouvement dont vous venez de parler a pour sous-titre Rondo all'Ungherese. Eh bien, nous allons en écouter une version du trio Wanderer. Thank you. troisième mouvement, Rondo à la Ungarese, du trio avec piano numéro 39 en sol majeur Gypsy de Joseph Haydn, interprété par le trio Wanderer. Et donc, la troisième œuvre au programme de votre concert du 28 avril à la Chapelle des Carmélites va nous permettre de retrouver ce cher Antonín Dvořák avec son trio dit Dubky, le numéro 4.
Oui, alors c'est un peu en écho finalement au dernier concert des Clés de Saint-Pierre du 31 mars dernier. C'est un peu le hasard des programmations, des projets qui sont présentés. Puisque le quintet en la majeur de Dvorak comporte une Dumka. Mais là, nous écouterons des Dumki.
Dumki. Il faut expliquer de quoi il retourne.
Oui, alors la Dumka, en fait, ça a eu plusieurs sens au fil des siècles. Au départ, c'est une sorte de pensée, une méditation. Puis ça devient une complainte. Puis un chant héroïque. Et finalement, au 19e siècle... C'est une composition instrumentale qui allie en fait les deux, c'est-à-dire des moments, des passages très mélancoliques et des passages très dansants, presque exubérants. Et on retrouve bien dans les six mouvements de ce trio de Dvorak ces atmosphères qui changent du tout au tout, d'un coup quelque chose de très planant et d'un coup ça s'emballe et on va à très vive allure. Ce trio a été composé en 1891. Et publié seulement en 1894. Alors pour la petite anecdote, Dvorak était à ce moment-là aux États-Unis, et pour éviter les va-et-vient incessants des partitions, des corrections avec son éditeur, il a demandé à son ami Johannes Brahms de faire les corrections, et donc c'est grâce à Brahms que la partition a été éditée en 1894.
Donc 3 ans après en fait, la composition réelle et effective de l'œuvre en question.
Mais le trio a été créé en 1891 avec Dvorak au piano. Dvorak, on dit que ce n'était pas un virtuose du piano, mais il avait, cela dit, une technique suffisante pour jouer ce trio Dumki. Et Joseph Souk, le violoniste, le compositeur, disait de lui d'ailleurs qu'il avait un sens exceptionnel des diverses finesses du toucher et de la technique des pédales. Alors, il n'est pas très souvent interprété.
Pas très souvent joué
mais... Non, j'ai un peu demandé autour de moi, mes collègues, et j'en parlais avec mon collègue Pierre Gilles, par exemple, le violoncelle solo de l'orchestre, et lui me disait l'avoir quasiment jamais joué. Il a une forme quand même très, très étrange.
Oui. Hein.
Ce sont 6 Dumki.
Oui, parce qu'il y a 6 mouvements. Il y a 6 mouvements,
voilà.
Effectivement.
Donc,
ce qui n'est pas commun. Hein.
Mais c'est tout de même une œuvre d'envergure. Hein.
Ah oui, une trentaine de minutes, 30-35 minutes selon les interprétations.
Voilà, en plus, c'est une grande œuvre.
Oui.
Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu en concert,
non.
Serge.
Moi
ça ne me dit rien non plus.
Hein. Moi non plus.
Mais en tout cas, je vais vous donner un aperçu de ce trio avec piano numéro 4 en mi mineur, Dumki d'Antonín Dvořák. Je vous propose de retrouver l'excellent Beaux-Arts Trio qui interprète ici le 6e mouvement Lento Maestoso Vivace.
Thank you.
Le Beaux-Arts Trio interprétait le sixième mouvement, et dernier d'ailleurs, Lento Maestoso Vivace du trio avec piano numéro 4 en mi mineur, Dumky d'Antonin Dvorak, la troisième pièce au programme du dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, la saison 24-25 bien sûr, lundi 28 avril à 19h30 à la Chapelle des Carmélites à Toulouse, un concert sous-titré « Souvenirs d'Europe centrale ». Il nous reste un concert à vous annoncer dans cette émission, celui que donne le pianiste Bertrand Chamaillou mardi prochain, le 29 avril à 20h à la Halle aux Grains, à l'invitation du cycle des grands interprètes. Grand interprète, c'est un vocable qui sied parfaitement à notre cher pianiste toulousain Serge.
Mais bien sûr, et on peut dire sans chauvinisme aucun, qu'il s'agit là d'un des grands pianistes de notre temps.
Oui.
Je crois. Hein. Donc,
Moi, je n'hésite pas à l'affirmer. Et franchement, quand on regarde la critique, c'est assez unanime tout de même.
Mais oui, c'est unanime. Hein. C'est un pianiste qui aime un peu à se lancer des défis.
En plus.
On se souvient tout de même que pour le 32e Festival Piano Jacobin en 2011, dans la même journée, il avait joué les 3 années de pèlerinage de Liszt. Dans la même après-midi. C'était tout de même incroyable. En plus, bon, il est devenu presque un spécialiste de Ravel, puisque donc il a enregistré l'intégrale de ses œuvres pour piano solo, c'était en 2016. Et d'ailleurs, il vient de nouveau d'enregistrer un disque Ravel, qu'il appelle Ravel Fragments, qui reprend certaines œuvres. C'est des œuvres transcrites et quelques œuvres d'hommage à Ravel par d'autres compositeurs. Donc, le récital qu'il va donner à Toulouse est centré sur Ravel, il faut le reconnaître, puisqu'il va jouer à la fois le cycle des miroirs et vraiment le nec plus ultra du piano ravelien, Gaspard de la nuit, qui est une œuvre d'une virtuosité, d'une difficulté incroyable, dans laquelle il explose, hein, Bertrand Chamaillou. Donc c'est vraiment un grand bonheur de l'entendre dans ce Ravel qui occupera le centre de son récital. Mais avant ça, en introduction, une petite pièce de Liszt, la légende numéro 2, Saint-François de Paul, marchant sur les flots, ce qui n'est pas non plus une œuvre de tout repos. C'est vraiment un...
Liszt, autre compositeur très cher à Bertrand Chamaillou.
Absolument.
Hein. Bah oui, il y a une certaine logique, je trouve, à jouer Liszt avant Ravel.
Absolument. Et puis ensuite, ce sera de nouveau des œuvres très virtuoses avec du Balakirev, avec d'abord la version pour piano de l'Alouette qui est originellement de Glinka et que dont Balakirev a orné en quelque sorte la partition. Et puis ensuite, de Balakirev directement, une berceuse, la Mazurka numéro 2, et alors le fantastique Islamé, qualifié de fantaisie orientale, et qui est, je crois, l'une des œuvres, me disent les pianistes, les plus difficiles de tout le répertoire pour piano solo. Donc vraiment, voilà, il joue avec une espèce de plaisir démultiplier ses œuvres. Donc on sera vraiment très heureux mardi 29 avril d'assister à ce récital.
Programme à la fois virtuose et original, bien original. À l'image de Bertrand Chamaillou, oui. À la fois du pianiste et de l'homme, je dirais, parce que c'est aussi un chercheur, c'est quelqu'un très érudit, très cultivé, très curieux, Bertrand Chamaillou.
Mais qui n'hésite pas d'ailleurs à aborder les œuvres les plus contemporaines qui soient. Hein.
John Cage, par exemple.
Voilà, oui, des œuvres pour piano préparé. Son répertoire est immense.
Écoutons maintenant Bertrand Chamaillou dans Ondine, premier volet du Gaspard de la nuit de son cher Maurice Ravel. Thank you. Ondine, magnifique première partie. Pièce de Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel, jouée par Bertrand Chamaillou, qui est donc en récital mardi 29 avril à 20h à la Halle au Grain, à l'invitation du cycle des grands interprètes. La billetterie est en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Je rappelle d'autre part que l'Orchestre National du Capitole est en concert sous la direction de Ton Koopman le vendredi 25 avril à 20h, également à la Halle au Grain. Au programme, la symphonie numéro 36 Linz de Mozart et le Stabat Mater de Pergolèse. Les billets sont à acheter en vous connectant au site www.onct.toulouse.fr. Je rappelle aussi le concert de la Schola Cantorum samedi 26 avril à 20h30 à la Basilique Saint-Sernin avec le programme Tour d'Europe de la musique baroque. Il est dirigé par Étienne Bernier et Jean Percy. La billetterie est en ligne sur le site www.scola-saint-cernin.com. Je rappelle enfin que le dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre a lieu le lundi 28 avril à 19h30 à la chapelle des Carmélites à Toulouse. C'est un programme de trio avec piano intitulé Souvenirs d'Europe centrale et vous pouvez réserver et acheter vos places à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org. Je remercie Serge Chosy qui a co-animé ce numéro avec moi et je remercie également Jean-Sébastien Borsarello et Jean Percy, nos deux invités du jour. Merci aussi à Francky Guéret qui a assuré la réalisation de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à nos auditeurs pour leur fidélité à Mélomanie. Très bonne semaine musicale à tous.